Et c'est la revue de presse de Claude Askolovitch.
France Inter, le 7-9.
Claude, on parle d'une passerelle.
Une passerelle himalayenne qui enjambe le paysage sublime des gorges du Lignon dans la Haute-Loire entre Grazac et Saint-Maurice. Ces 268 mètres ont été ouverts au public vendredi 15 avril. Ce matin-là, l'éveil de la Haute-Loire pavoisait. Mais deux semaines plus tard, la revoilà la passerelle à la une de l'éveil et patatras, le titre a changé, victime de son succès. Et on nous montre une photo, non pas de la nature splendide, mais d'un embouteillage humain, deux files interminables de touristes sur la passerelle. Et dans les villages, on gémit, on n'avait pas prévu ça. Cette foule compacte qui envahit les hameaux, une marée humaine telle qu'on ne peut plus sortir de chez soi. Et puis les saletés qui laissent les touristes derrière eux, des canettes, des mouchoirs, des paquets de cigarettes. Alors les villageois se rebiffent. Non, pollution touristique, proclame une banderole. Le cri n'a pas une chance. L'affluence sur la passerelle était estimée par ses promoteurs à 30 000 personnes par an. Wesh, à Mazamet, dans le Tarn, pour une traversée comparable, il y en a 100 000. Nous sommes foutus, nos maisons ne vaudront plus rien, dit-on dans les villages. Le paradis, par les autres, est devenu un enfer. Allons, il en est d'autres des petits enfers dans les journaux. Dans Libération, écoutez des jeunes gens des villes qui racontent leur quartier perdu de pauvreté. Vivi, 14 ans, vit à Orly, dans une cité promise à démolition pour faire place à un quartier résidentiel. Sa cité s'est vidée de ses habitants, il n'y a plus qu'un voisin dans l'immeuble où elle habite avec sa mère. Le vent s'infiltre, les champignons poussent sur les murs. Les grand-mères qui nourrissaient les pigeons en bas sont parties et quand elle rentre du collège, Vivi court tellement, elle a peur. S'il lui arrivait quelque chose, personne ne pourrait l'aider. À Marseille, vous entendez Sabrina, qui vit dans un quartier où la drogue règne, les poubelles débordent. Elle croise, dit-elle, des rats morts tous les demi-pas qu'elle fait. Vivre dans le sale me donne l'impression d'être sale moi-même. Elle a des jolis mots, cette jeune femme, qui se douche deux fois par jour. Ses parents ont déposé une demande pour un logement social de l'autre côté de la ville, le 8e près de la mer. Chez les riches, ils en parlent le soir en famille du 8e, comme d'une île paradisiaque.
Vous nous parlez aussi d'une jeune fille riche.
La blonde et jolie Elisaveta Peskova, dont Le Monde nous raconte le compte Instagram aux 250 000 abonnés qui suivent sa vie dorée de jet-setteuse, tourisme en Turquie, shopping à Paris, bronzage à Sochi. Elle est la fille de Dmitri Peskov, propagandiste du Kremlin dont Le Monde nous décrit la vie glamour. Ça nous parle de bijoux suisses et de la croisette à Cannes. Bien sûr, le rêve s'interrompt cette année, mais quelle étrangeté que ce monde. Mais dans ce portrait de famille, c'est bien Elisaveta qui intrigue. Elle a longtemps vécu en France. Elle fut stagiaire assistante à Paris, au Sénat et à Bruxelles au Parlement européen avec des élus français poutinophiles. En décembre 2018, elle, la riche russe, manifestait avec les gilets jaunes et portait sur Instagram « Je suis libre et je le resterai, monsieur Macron !» Mais en février dernier, quand la Russie envahit l'Ukraine, elle lançait une story Instagram en quatre mots « Non à la guerre ». Et sur son profil, le dernier message dit, il date de mars, le mot « Peace ». Quels sont les méandres de la conscience chez les enfants princiers ? Dans Le Parisien, vous lisez le témoignage d'une jeune femme qui s'est cherchée. Elle était petite fille garçon manqué, comme on dit, puis à 14 ans, s'est sentie garçon de vrai au fond d'elle-même. Elle a commencé sa transition. Mais Anna, devenue Sacha, adolescent musclé hormoné, a été prise de malaise et a voulu revenir en arrière. Elle est désormais Anna à nouveau, une jeune femme à la voix devenue basse, qu'elle exerce à devenir androgyne. Elle parle d'elle-même, c'est joli, avec un zeste d'ironie. Et vous deviez me dire que maintenant, on parle de richesse, Nicolas.
De richesse, Claude.
Où étiez-vous ? On parle de richesse, richesse que vont pêcher des plongeurs qui explorent des épaves antiques en quête d'amphores qui peuvent coter, les gars, 1500 euros. Là, vous écoutez. Allez, ce sont de vrais pilleurs ou des pilleurs d'occasion, plongeurs amateurs qui, avec leurs trophées, vont décorer leur salon. C'est raconté par Le Figaro qui précise que tout ceci n'est pas légal. La Croix, elle, nous dit qu'il est déconseillé aussi de chercher fortune sur les plages avec un détecteur de métaux. Oui, mais on trouve si peu de l'or. Libération, encore elle, nous dit l'aubaine de Carlos Ghosn au temps de sa toute puissance quand un milliardaire d'Oman alimentait pour lui et les siens une caisse noire à hauteur de 80 millions d'euros. On lit cela quand Le Progrès nous dit que Renault, que Carlos Ghosn dirigea, vient de décider de fermer sa concession de Vaux-en-Velin parce que le quartier n'est pas sûr et puis ses habitants sont trop pauvres, ce ne sont pas des clients. Et vous touchez ici justement la coupure de la France. Dans L'Est éclair, vous lisez à propos d'un fait divers sordide, un homme séquestré et battu, la plaidoirie de l'avocat de l'agresseur, elle est terrifiante au-delà de l'effet de prétoire. Il faut relativiser, ça se passe à Bar-sur-Aube, on y vit comme au 19e siècle, c'est la France profonde, la civilisation n'a pas encore apporté tout ce qu'elle pouvait apporter. Sentez-vous le mépris ? À Dreux, j'en termine. À Dreux, où les cités ont voté Mélenchon, je lis dans les cours républicains que l'entraîneur charismatique d'un club de foot local, Yassine Chahari, était porté par ces cités pour être candidat aux législatives. Mais les vrais militants de la France insoumise qui tiennent l'appareil ont expliqué aux cités que ce n'était pas pour eux, pas encore. C'est un petit oubli quand dans nos plages politiques, on parle d'union.
Merci Claude.
France Inter.